Chers auditeurs de Radio Maria, bonjour. Nous reprenons ensemble le beau parcours de l'évangile de la famille. La famille qui est le lieu privilégié de l'amour mutuel, le lieu où s'apprend en premier, en tout premier lieu, c'est là que l'on apprend le don de soi les uns pour les autres. C'est là que l'enfant va apprendre dès le début à l'amour, aider, rendre service, faire des cadeaux, faire des bonnes paroles, être poli, donner des temps aux autres. C'est là que ça prend le don de soi en premier. La famille, le lieu précieux, le précieux. Et la famille qui est aussi cette église domestique qui est face et qui regarde le Christ et que le Christ aime comme l'époux aime l'Église, lui qui est l'époux de l'Église et qui se donne, qui peut se livrer pour cette famille et il se livre pour cette famille et il se donne et il sauve cette famille et en premier lieu, à l'origine de cette famille, dès l'origine des temps, il y a le couple, l'homme et la femme, qui quittent leur père et leur mère et qui s'attachent l'un à l'autre et qui ne font plus qu'un, l'homme et la femme, et ils ne font plus qu'une seule chair. Et dès l'origine, donc, Dieu bénit cet homme et cette femme et il leur met dans le cœur profondément, nous avons vu ça, il leur met dans le cœur, à l'intérieur, inscrit en eux, ce don, cette capacité de se donner l'un à l'autre, et leur met dans leur cœur cette capacité de se percevoir comme un cadeau pour le monde, et de percevoir les autres comme un cadeau pour soi-même. Nous avons reçu beaucoup de cadeaux ces derniers temps avec Noël qui est passé. Nous sommes nous-mêmes un cadeau pour les autres par tout l'enrichissement qu'on leur apporte et par le don de nous-mêmes aux autres. Et ils sont un cadeau par le don d'eux-mêmes parce qu'ils donnent de leur personne, de leur temps, de leur cœur, de leur esprit, de leurs paroles, de leurs gestes, tout ce qui est du don. Et nous sommes dans une relation de don l'un l'autre, où on se donne et on reçoit le don de l'autre. Alors ce don de l'un à l'autre n'est pas évident, puisque nous avons vu les dernières fois donc le péché originel. Et nous allons continuer à la suite de ces entretiens sur le péché, c'est-à-dire la chute, et les conséquences de cette chute. Ce fameux foutu péché que l'on vit tous les jours, cette tendance à vouloir, ce péché qui est de vouloir prendre les choses par nous-mêmes, nous débrouiller par nous-mêmes, ne dépendre de personne et encore moins de Dieu. Nous ne voulons pas dépendre de Dieu, c'est ça le premier péché. Et en ne voulant pas dépendre de Dieu, nous avons considéré que Dieu ne voulait pas tout nous donner. Dieu avait quelque chose à nous cacher, que Dieu finalement nous aime pas vraiment. Et ça, c'est le péché, le grave péché de l'origine. Nous avons douté que Dieu nous aime totalement, qu'il nous aime à la folie. Et Dieu va envoyer son Fils, lui qui nous aime à la folie, il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils qui est venu pour nous sauver et mourir sur la croix pour nous sauver. Voilà ce que fait Dieu. Et nous avons douté de Dieu. Et les conséquences, elles sont terribles. En doutant de Dieu, donc notre relation à Dieu est complètement altérée. Puisque nous doutons de Dieu, nous doutons de son amour. Nous ne sommes pas sûrs qu'il nous aime. Nous commençons à avoir peur de lui. et nous avons peur et nous le craignons. Une crainte, nous pouvons le craindre d'une crainte servile. Qu'est-ce qui va me faire ce Dieu? Qu'est-ce qu'il va m'arriver? Et alors, au lieu d'être dans une crainte filiale, Seigneur, voilà, j'ai péché contre toi et je viens me blottir comme un enfant qui a péché. Je viens me retourner vers toi parce que tu es mon Dieu et je sais absolument que tu m'aimes dans une confession. Voilà ce que l'on fait. On retourne à Dieu comme un enfant qui retourne voir son Père et qui vient lui dire, oui, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Et pardon, pardon. Et Dieu nous rétablit dans sa filiation. Rendez compte, nous sommes fils. Je suis son fils. Il me dit, tu es mon fils. Il nous dit, tu es ma fille. Et je t'aime. Voilà ce qu'il nous redit à chaque confession. Je t'aime. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. Et je t'aime. Il nous aime totalement. Alors, d'autres conséquences dans notre relation au monde et à la création, c'est incroyable ça aussi. Vous imaginez le fait de ne douter de Dieu, de plus croire en l'amour de Dieu, finalement on ne croit plus que Dieu a créé le monde pour le bien. Donc ce n'est plus un acte d'amour et donc on peut ne plus croire que le monde est un cadeau, est un bien extraordinaire. On peut ne plus croire que la création est un bien pour moi. Et on peut croire par contre que la création dont je crains maintenant, au lieu de la dominer et que de la fructifier, d'en faire des choses, d'en faire, de la valoriser, de lui faire ressortir tout le bien qu'elle peut, on la craint et on finit par veut la posséder. Et voilà, on en arrive à des dérives de possession de la création. On en arrive à la dérive de prendre un bien pour soi-même, de vouloir l'utiliser à fond. On utilise le sol, on épuise le sol de tous les minerais formidables qu'ils nous produisent, de toutes les énergies qu'ils peuvent nous donner. Là, on a un beau jardin. Eh bien, je veux ces jardins, ces arbres me cassent les pieds, je veux les prendre, je les enlève, je fais, après tout, hein, puisque je décide par moi-même, je fais vraiment ce que je veux, je déverse une belle plaque de béton sur ce jardin, comme ça, ce sera propre et net, hein, je fais absolument ce que je veux. Et on en arrive à une destruction, à des destructions colossales, et on en arrive à un certain malheur. Et puis, comme dit le pape, Dieu pardonne toujours. C'est pape François qui nous dit ça, Dieu pardonne toujours. L'homme pardonne parfois et la nature pardonne jamais. La nature n'a pas de sentiment. La nature ne comprend pas, on a vu ça. Seul l'homme comprend ce qu'est le don. Seul l'homme comprend qu'il est un don et que la nature est un don pour lui. La nature, elle, n'a pas ce sens du don. La nature, elle ne peut pas pardonner. La nature, elle réagit. Elle réagit à nos comportements. Et parfois, ces comportements, ces réactions peuvent être brutales, mais on en est parfois bien responsable. Et nous sommes donc l'homme. Donc ça, c'est là par rapport à la création. L'homme ne comprend plus la création. Il la voit de façon complètement différente. Il la voit de façon... il en a peur, au lieu de, alors qu'il était dans une pleine compréhension de la création, des animaux, de tout ce qui l'entourait. Il ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien à cette création. On en a peur. On croit qu'on la comprend. On essaie de la comprendre. On fait des sciences. On essaie de comprendre de plus en plus. Et puis... on s'aperçoit bien souvent qu'on ne maîtrise pas grand-chose finalement. On le voit ça avec les dérèglements peut-être climatiques qui s'opèrent, dérèglements des sols, dérèglements de ce qui peut se passer d'un avenir un peu noir, qui conséquence de l'épuisement de toute la terre que l'on utilise. Une troisième conséquence du péché originel, eh bien, c'est aussi dans la relation avec soi-même, puisque j'ai douté de Dieu et que j'ai douté de l'amour de Dieu, je peux douter de moi-même. Je peux douter de mon propre amour. Je peux douter de ce que je suis. Je peux douter, puisque je mets un doute sur le don. Je peux douter que je suis un don. Je peux douter que je suis un don pour moi-même et que mon corps... Et du coup, comme c'est le corps qui signifie le don, le corps qui signifie que je suis fait pour le don, je peux douter de mon corps et je peux accuser mon corps, avoir peur de mon corps et avoir peur de ce qui est mon corps. Il m'effraie. Et je peux du coup mettre mon corps en veilleuse, mettre mon corps, le voir comme quelque chose qui est oppressant. Et voire même avoir peur de tout ce qui rentre dans mon corps et avoir peur de tout ce qui en sort, ça peut donner des maladies terribles. Et j'ai peur de moi-même, et j'ai peur de la concupiscence. Je vois bien cette concupiscence, ce désir, puisque comme je ne vois plus très bien les choses comme un don, à l'opposé, je vois les choses comme quelque chose qui peuvent être possédées, prises, et je vois ce sens de la possession qui monte en moi, et ça me fait peur. J'ai peur de moi-même. Ça me fait peur, j'en ai honte. Et voilà une conséquence. Donc, il y a dans ce péché originel une forte conséquence sur soi-même. Et puis, dans ce péché originel, on va voir aussi, il y a fortes conséquences dans la relation à l'autre, dans la relation entre l'homme et la femme. Et la première conséquence, c'est la honte. L'homme et la femme se cachent l'un devant l'autre. Et la honte, l'homme et la femme, se cachent l'un devant l'autre et ils accusent le corps. En fait, ils ont honte de leur péché. Nous avons honte de sentir en nous que quand je regarde une femme, c'est le désir qui arrive très rapidement et j'essaie de m'en préserver. Nous essayons, hommes et femmes, de se préserver de ça. Et pour se préserver, arrive derrière la honte, arrive la pudeur. Donc, comme conséquence du péché originel, une conséquence positive quelque part, puisque la pudeur, c'est quelque chose qui nous rappelle. C'est une sorte de trace de notre innocence originelle. La pudeur, c'est quelque chose qui établit des règles, qui nous permet de retrouver une relation possible, une relation amicale, une relation juste entre nous, entre l'homme et la femme en particulier. La pudeur, c'est quelque chose qui dit « mon corps ». C'est quand même moi, mon corps c'est moi, et mon corps doit être protégé. Le corps de l'autre, c'est lui. Le corps d'elle, c'est elle-même. Et son corps doit être protégé. La pudeur, et donc elle veut préserver le corps, mon corps, le corps de l'autre. Elle veut préserver la signification de mon corps. Mon corps, c'est quelque chose de précieux. Mon corps, c'est moi, il est précieux. Il est respectable. Il doit être préservé du regard de l'autre et de mon propre regard peut-être aussi. Le corps, il me permet de... La pudeur, elle me rappelle la signification de mon corps qui est donnée dès l'origine. Et elle me rappelle donc cette innocence originelle où le corps était vu comme don, comme appel au don de soi. L'homme et la femme quittent leur père et leur mère et s'unissent l'un à l'autre. Ils ne font plus qu'une seule chair. Or, ils sont nus, ils n'en ont pas honte. Ils n'en ont pas honte. Et avec le péché originel, de l'absence de honte, on est passé à une honte. Et on est passé, et la honte, pour retrouver un petit peu cette l'innocence originelle, pour retrouver un petit peu une situation de justice comme qui se rapproche de cette justice de l'origine, où le corps était perçu vraiment dans sa beauté, dans sa qualité de don, eh bien, il y a cette pudeur. Et cette pudeur est établie dans les relations entre les personnes, entre l'homme et la femme en particulier. Elle se traduit principalement, elle se traduit dans les vêtements, mais elle se traduit aussi dans des façons d'être, dans les façons de, dans une gestuelle et une façon de une distance entre les personnes. On sent bien quand la personne devient trop proche avec le toucher, commence à entrer dans une relation de toucher, on a tendance à repousser, à induire une distance. La pudeur donne une distance entre les personnes et en même temps, elle, c'est pas une distance trop grande, elle permet une relation entre les personnes. Puisque je suis là avec mon corps, je le protège avec mes vêtements. Mon corps n'est plus visible, mes valeurs sexuelles ne sont plus visibles, mais je les protège, je les protège. Et étant, me sentant protégé, eh bien, je peux m'approcher de l'autre et avoir une relation, avoir un regard plus paisible, un regard qui se rapproche, un regard d'accueil, un regard qui va me permettre d'entrer dans une relation de don. Une relation où je vais pouvoir apporter quelque chose à l'autre et recevoir quelque chose à l'autre. La pudeur, c'est vraiment quelque chose qui permet de retrouver une relation juste et adéquate l'un devant l'autre. Alors nous continuons avec la pudeur. La pudeur dans notre monde actuel, c'est plutôt l'impudeur que l'on perçoit. Je pense au panneau, on regarde toutes les publicités que l'on peut voir dans la rue, sur les ordinateurs, sur la télévision. Il nous est présenté des personnes au corps bien dévêtues bien souvent. Et c'est de l'impudeur, c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'inciter au désir, une volonté de susciter le désir. Et effectivement, par un corps dénudé, chez les garçons, souvent vient le désir de jouissance du corps qui est là, le désir de le prendre pour faire un plaisir sexuel et pour assouvir une pulsion sexuelle qui vient à ce moment-là. Et donc là, il y a une impudeur qui provoque le désir, et le désir qui prend le cœur du garçon, qui prend le cœur, est un esclavage, parce qu'il va avoir une difficulté énorme à se maîtriser, à gérer ses pulsions, à gérer ses émotions. Et quand on ne se possède plus, on n'arrive plus à se donner. On ne peut donner que ce que l'on possède. Je ne peux donner que ce que j'ai. Si je ne possède pas mes pulsions, ma personne, comment vais-je me donner ? Et quelque part, et donc je perds ma liberté est perdue. Je suis beaucoup moins libre et je suis soumis à ces pulsions et je suis peut-être bien souvent, on peut être de plus en plus soumis à nos pulsions et de plus en plus soumis à des images à caractère pornographique que l'on peut voir dans la rue et que l'on peut voir sur les écrans, en toutes sortes d'écrans. Et donc la pudeur qui permet de, à l'inverse de cette impudeur, créer des relations justes entre les personnes, la pudeur, ça s'apprend dans notre monde. On apprend à la jeune fille que le fait de s'habiller de façon trop dénudée va susciter dans le cœur du garçon ce désir et va entraver, va susciter donc le désir de posséder, donc il n'y aura plus cet élan vers le don, en tout cas il va être fortement réduit, puisque elle risque d'être regardée pas pour elle-même. Attention, la façon dont je m'habille je risque fort. On cherche l'amour quand on cherche forcément à être aimé, mais le fait d'être, on va être, pas être, être aimé de façon biaisée, on va être aimé pour son corps, et ce qui va attirer le regard, c'est le corps, et c'est ce qui va susciter le désir, et donc ça va provoquer, je vais provoquer l'envie de jouir de mon corps au lieu de l'envie d'être, de m'aimer pour moi-même avec toutes mes valeurs. La jeune fille qui s'habille de façon très dénudée va provoquer le désir, et au lieu d'être aimée, elle risque d'être possédée pour son corps, d'être prise pour son corps. Et au lieu d'être aimé pour toutes ses valeurs, d'entrer dans une relation globale avec toute sa personne, avec sa sensibilité profonde féminine, avec son esprit tout à fait particulier que l'on a chacun, avec ses gestes, avec toute sa personne, ben non, c'est juste son corps là qui va être désiré. Voilà le risque d'une manque de pudeur. Le risque va être de la possession de l'autre, le désir de la possession de l'autre. Et donc ça s'apprend. Ça s'apprend, la pudeur. Ça s'apprend une juste distance. Et quand on vit deux personnes qui vivent trop près de l'autre, qui travaillent l'un à côté de l'autre, et qui sont vraiment très proches, trop proches, très proches. Quelque part, il y a un manque de prudence et un manque et une pudeur et la pudeur va être de mettre une juste distance où on va avoir une relation de proximité, une relation vraie, une relation où on va pouvoir donner quelque chose de soi-même l'un à l'autre, mais dans le respect l'un de l'autre, dans le respect total, et éviter ce regard de désir, surtout pour un homme marié dans son travail. Il travaille avec d'autres personnes, avec des femmes, et une proximité très grande pourrait provoquer le désir. Elle peut provoquer le désir et fausser la relation et provoquer aussi un adultère. Alors la pudeur, c'est quelque chose de vraiment précieux, quelque chose qui nous permet une pureté. Et on en parlera dans la fois prochaine, peut-être, avec qui permet la pureté pour être dans des relations de sainteté. Finalement, la pureté, c'est la voie de la sainteté, et la voie de la sainteté et on compte s'y engager avec la force de l'Esprit Saint. Alors, l'homme et la femme qui ont perdu, maintenant nous nous situons dans le couple, l'homme et la femme qui ont perdu ce désir de se donner l'un l'autre, il rentre dans un désir de jouir, un désir de profiter du corps de l'autre. Et donc ça peut être dans un couple, ça. On est là, on est ensemble, on est bien ensemble, et on s'unit parce que on profite bien du corps de l'autre pour son plaisir sexuel. Et le but, d'ailleurs, c'est l'apaisement. J'ai des pulsions sexuelles et en profitant du corps de mon épouse, j'apaise mes pulsions. Et puis elle aussi, elle apaise ses pulsions. Et nous utilisons réciproquement le corps l'un de l'autre. Ça, c'est une situation où je vois le corps de l'autre comme objet pour mon bien personnel, pour assouvir mes pulsions sexuelles. Et ça conduit à quoi ? Ça conduit à, bon, je désire un plaisir. Est-ce qu'on y trouve du plaisir ? On trouve du plaisir, sans doute. Et donc on recherche le plaisir. Et puis, et à chaque fois et toujours, bien souvent, le plaisir, oui, il y a du plaisir, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas accompli. Il y a un épanouissement qui n'est pas total. Une unité dans le couple, non, il y a quelque chose. Il y a un manque dans l'unité dans le couple. Dans l'union entre l'homme et la femme, il va y avoir comme un manque. Et c'est l'insatiabilité de l'union. Et on va encore s'unir, chercher du plaisir, peut-être chercher les moyens de se faire plaisir, avec des techniques toujours plus sophistiquées pour avoir de plus en plus plaisir. Et de plaisir en plaisir, de recherche toujours plus intense du plaisir, il y aura toujours ce manque de la pleine unité. Parce que le plaisir n'est pas un... Le plaisir, c'est pas le but, c'est le fruit. Le but, c'est l'union. L'union, être dans une harmonie, dans une unité entre l'homme et la femme, voilà le but. Et pour aller vers l'union, la seule voie, c'est se donner. Voilà, j'ai mon corps avec mon corps, mon esprit et mon cœur. Je me donne à toi, et toi avec ton corps, ton esprit, ton cœur. Tu essaies de te donner totalement à moi. Et dans cette délicatesse que cela va provoquer, dans cette tendresse qu'il va y avoir dans ce désir d'union, dans ce don que l'on va avoir, eh bien, le plaisir va jaillir, la joie va jaillir, la joie de recevoir l'autre, la joie d'être reçu par l'autre. Alors, nous reprenons avec l'insatiabilité du don et la joie du don. L'homme et la femme ne se trouvent pleinement que dans le don sincère, le don désintéressé. L'homme se trouve pleinement que dans le don désintéressé de lui-même. Si cette phrase est vraie, de cette phrase du Concile, Gaudium, Concile Vatican II, et la constitution pastorale Gaudium Spes, si cette phrase est vraie, alors il n'y a pas d'autre chemin que le don pour trouver le bonheur. L'homme se trouve, c'est-à-dire qu'en plus, il trouve la liberté. Il se trouve, ça veut dire qu'il se retrouve, il se possède dans le don de lui-même. C'est-à-dire que par l'offrant, je me donne moi-même, je reçois le don de l'autre, et par le don de l'autre, je me reçois aussi, je reçois quelque chose finalement de moi-même, et je reçois en plus un enrichissement de la part de l'autre, et moi, l'autre reçoit, mon épouse me reçoit, reçoit quelque chose d'elle-même, et reçoit aussi un enrichissement de ma part. Et cet échange de dons est un enrichissement, cet échange de dons, et conduit à une possession plus grande l'un de l'autre, et donc à une joie plus grande, parce que lorsqu'on se donne, qu'on se possède, on se donne davantage, et lorsqu'on se donne, eh bien, on l'a vu à Noël, le don de quelque chose, un cadeau, est une joie, est à chaque fois une joie pour celui qui reçoit, une joie pour celui qui donne, et certainement une joie, et la joie de celui qui donne est souvent parfois plus grande que la joie de celui qui reçoit. Et voilà, merci Seigneur pour ces échanges de dons. Alors revenons donc au péché, aux conséquences du péché. Et vous allez me dire, mais on dit bien qu'on se possède quand on dit « Elle est ma femme, je suis son mari, hein, ils m'appartiennent, et ils m'appartiennent. Hein. » Comme d'ailleurs, c'est bien dit dans le Cantique des Cantiques, « Mon bien-aimé est à moi, il m'appartient quelque part, je le possède. » Et non, cette appartenance-là, ma bien-aimée, et quand je dis « Elle est ma bien-aimée, moi je suis son bien-aimé », cette appartenance-là dit que je lui suis réservé et que je me suis donné totalement à elle, que je me suis donné à ma femme le jour de mon mariage. Je me suis donné, je me donne à toi totalement pour t'aimer toujours dans les épreuves et dans les joies. Toujours. C'est la conséquence, ça marque, ça caractérise le don total que l'on a fait l'un à l'autre. Quand je dis ma femme caractérise le don qu'elle m'a fait d'elle-même total. Quand je dis je suis son mari, caractérise le don. Je lui appartiens. Alors ce qui est intéressant justement aussi dans le Cantique des Cantiques, on peut lire au début, effectivement, c'est mon bien-aimé, quelque part il est à moi. Et puis un peu plus loin, c'est je suis sa bien-aimée et son désir se porte sur moi. Et donc je suis sa bien-aimée et il vient vers moi. Vous voyez, il y a déjà un décentrage. C'est plus il est à moi, je le possède, il m'appartient. C'est je lui appartiens et il vient vers moi. Et à la fin du Cantique des Cantiques, tout à fait à la fin, c'est « Fuis, mon bien-aimé, va de colline en colline ». C'est-à-dire que j'ai une confiance totale dans mon bien-aimé. Je n'ai plus à dire « Il est à moi, je suis à lui ». Il est libre et j'ai tellement confiance que c'est mon bien-aimé. J'ai une confiance totale. Ça rappelle cette confiance de l'origine. Une confiance totale en Dieu à l'origine, une confiance totale dans l'amour de Dieu, dans le fait que Dieu agit, et quand il agit, c'est pour mon bien, c'est par amour, c'est complètement par amour qu'il agit. Et donc, l'appartenance réciproque dans ma femme, mon bien-aimé, ma bien-aimée, c'est plutôt une douceur qui rappelle qu'on s'est donné l'un à l'autre. Et justement, ça permet aussi de se rappeler ce fameux Cantique des Cantiques et de se redire un chant d'amour. Tu es ma bien-aimée, ma colombe, ma douceur, une perle précieuse, ma réservée, ma chant de marguerite. Tu es une merveille sous mes yeux et je t'aime. Alors, à l'opposé, d'une union, d'un don total, évidemment il y a l'adultère, avec cette conséquence, c'est une conséquence du péché originel, c'est-à-dire je veux prendre, et j'ai une épouse, et je veux prendre le corps d'une autre femme. Et il y a cette parole du Christ dans Matthieu 5, au verset, je crois, 27. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Il va très loin, le Christ. Ce n'est pas lorsque j'ai accompli l'acte d'adultère avec une femme que je suis adultère. L'adultère commence dès le regard. Dans ce regard de désir, de prendre le corps, déjà là, Je fausse compagnie à mon épouse. Déjà là, je suis dans à me détourner de mon épouse pour regarder et focaliser mon regard sur le corps d'une autre personne. À partir du moment où je regarde pour la désirer, c'est-à-dire pour posséder, c'est le regard qui est la clé, le regard pour désirer, le regard pour prendre, pour assouvir ses pulsions sexuelles. Dès ce moment-là, je suis adultère dès ce moment-là. Combien de fois on est adultère? Combien de fois? Et ça va encore plus loin que ça. Il dit « Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Une femme. Mais alors, une femme, ça peut être la mienne. Le mariage, c'est pas un permis de posséder. C'est pas un acte d'appartenance, de possession. C'est pas un permis d'assouvissement des pulsions sexuelles libres. J'achète pas une femme pour utiliser son corps et assouvir mes besoins sexuels. Même ma femme, je peux avoir ce regard de désir. Si j'entre dans ce regard de désir avec ma propre femme, si j'entre dans ce regard de désir avec elle, c'est-à-dire que je regarde ma propre femme pour la posséder, juste C'est-à-dire que j'oublie de regarder son cœur, j'oublie de regarder comment elle est habillée, qu'elle a mis des jolies boucles d'oreilles pour se faire belle pour moi, qu'elle m'a accueilli, qu'elle m'a fait un geste de tendresse. J'oublie de la regarder, de voir comme elle est belle par son sourire, par l'attention qu'elle a eue pour moi, les attentions qu'elle a eues pour les enfants, par les mots gentils qu'elle a eus. J'oublie qu'elle est une personne, qu'elle a un corps et qui dit, qui appelle au don, un corps qui dit, je suis un jardin précieux, je suis un jardin fermé, clos, un jardin où nul ne rentre sans mon autorisation, sans le violer. Je suis un jardin, un très beau jardin, et pour lequel il faut attendre de dire, que l'épouse dise, viens, entre, entre dans ton jardin, entre dans mon jardin et viens goûter les fruits de mon jardin. Et je suis prête, viens. Comme à la fin, c'est ces mots que l'on retrouve à la fin même de toute la Bible. Viens, Seigneur Jésus, viens. L'épouse qui dit viens. Attendre ce viens libre, libre, qui dit je veux bien, je me donne à toi, je veux bien que nous unissions l'un l'autre. Et voilà. Et là, je suis dans cette union, et l'époux dit oui. Je te respecte. Oui, je veux avoir les gestes de délicatesse. Je veux avoir le regard, tenir compte de tout ce que tu es, de toute sa sensibilité, de ta personne, tenir compte de ton cycle féminin, tenir compte de tout ce que tu es, de ton caractère dans notre union. Parce que je t'aime et que je te respecte, je respecte ton corps, hein, je respecte ton être, ton cœur, je respecte ton esprit. Je sais que tu as besoin de temps, tu as besoin de parler. Alors on discute, et avant l'union, on a besoin d'être très concilié avant l'union. On a besoin d'être dans une paix, dans une relation déjà d'écoute, de partage. Et à ce moment-là, on se donne beaucoup plus, on se donne l'un l'autre. Et reçois-moi, je te reçois, et tu me reçois comme épouse. Et voilà, rentrer dans ce don. Et si je suis dans ce regard de possession, je vois ma femme comme, voilà, je regarde plus mon corps. Je veux dire, le mariage, il y a bien un droit du mariage, je dois pouvoir utiliser le corps de ma femme. Hein. C'est bien Saint Paul qui dit, unissez-vous souvent. Oui, il le dit, oui. Mais dans le respect l'un de l'autre. Voilà, le mariage n'est pas un droit d'utilisation du corps de l'autre. Et si je vois le corps de mon épouse et que je considère que j'ai un droit sur son corps, je rentre dans une utilisation de son corps et je rentre dans une sorte d'adultère. Oui, à ce moment-là, je peux regarder ma femme dans le désir, en ne regardant juste son corps. Et à ce moment-là, le Christ nous dit, je suis adultère. Alors peut-être que pour éveiller encore notre joie, plutôt notre désir du don de l'un de l'autre dans nos relations, puisque je lisais le Cantique des Cantiques, ça peut être une grande joie dans un couple de se relire des passages de ce Cantique des Cantiques et d'y percevoir peut-être particulièrement cette évolution du je, tu es à moi, et puis ensuite je suis à toi, et ensuite à la fin tu es pleinement libre. J'ai une pleine confiance en toi, et je sais que tu es tout donné pour moi, et que je vais tout donner pour toi dans une relation d'amour mutuel, d'union mutuelle, dans un désir d'une communion l'un l'autre. désir de cette communion comme elle était parfaite à l'origine. Et nous verrons plus tard que nous entrons, puisqu'on ne peut pas rejoindre l'origine, par contre, le Christ nous sauve et va permettre, lui, par sa rédemption, d'aller vers une communion différente, de travailler à une communion, mais à une communion qui va ressembler à la communion que l'on vivra au ciel, et qui sera, elle, quelque chose encore plus merveilleux, qui sera une merveille que nos amis prêtres, religieux, laïcs consacrés, essaient de nous percevoir dans la relation que nous peuvent avoir avec tous leurs frères et sœurs, parce qu'ils veulent, montrer à ce monde ce que sera cette communion extraordinaire au ciel. Voilà, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour continuer sur la chute et les conséquences du péché originel. Merci.